France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Aujourd'hui, le Book Club vous emmène dans l'univers du conte. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur abandonnés par leurs parents en forêt et livrés aux mains d'une sorcière bien décidée à les dévorer. Dans la traduction que Violaine Schwartz propose de Hansel et Gretel, la sorcière est devenue sorcière. Sous le pinceau de David Zala, elle est une très belle femme majestueuse, aux yeux maquillés de bleu et à la bouche aussi vermillon que celle de Blanche-Neige. Ils sont l'une et l'autre nos invités pour évoquer leur regard sur l'univers de ce conte des frères Grimm. Vers 15h50, grâce au réseau des correspondants à l'étranger de Radio France, nous prendrons des nouvelles du livre au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, Noé Pignède nous appelle de Beyrouth et nous parle de l'omniprésence de la guerre dans la littérature libanaise, alors qu'à nouveau, le pays se trouve au cœur d'un conflit à sa frontière. En fin d'émission, ce sont vos trouvailles de lecture qui nourrissent le grand jeu des pages musicales, grâce auxquelles on pourra se quitter en chanson. Vous avez le programme, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Et bonjour, Violaine Schwartz.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes comédienne, chanteuse, autrice de plusieurs romans et récits parus chez POL. Les auditeurs de France Culture se souviennent aussi peut-être que vous étiez l'une de celles que l'on retrouvait régulièrement autour de la table des regrettés papous dans la tête de Françoise Tressart. Nous vous recevons à l'occasion de la version que vous nous proposez de 21 contes des frères Grimm. Ce livre est joliment sous-titré un genre de traduction. On verra pourquoi il a paru au format poche, toujours aux éditions POL. Et bonjour à vous, David Zala.
Et bonjour, Mathilde.
Et merci aussi à vous d'être là. Merci. Vous êtes auteur de bande dessinée, illustrateur. On se souvient notamment de votre roman graphique et autobiographique Le poids des héros, qui était paru chez Casterman l'an dernier. Il y a quelques années, vous aviez déjà travaillé à une adaptation en bande dessinée d'une œuvre littéraire avec Le joueur d'échecs de Zweig, et puis par le passé d'autres contes, La Belle et la Bête. Aussi, je crois, aujourd'hui, vous êtes avec nous pour parler de la version illustrée que vous proposez de Hansel et Gretel. Vous en signez les images, donc il a paru aux éditions Casterman. On va parler avec vous deux de votre vision, votre interprétation de ce conte-là et peut-être au-delà de l'univers des frères Grimm. Mais vous le savez peut-être, ici, tout commence toujours par un questionnaire qui nous permet de découvrir nos invités en tant qu'ils sont d'abord des lecteurs. Et peut-être aujourd'hui qu'on s'arrêtera un peu plus sur vous en tant que lecteur de contes, justement. Mais je vous adresse la première question traditionnelle de ce questionnaire. Est-ce que vous vous souvenez l'une et l'autre avoir appris à lire, Violaine Schwartz?
Alors moi, malheureusement, je fais partie de ces gens qui n'ont pas beaucoup de souvenirs d'enfance. Je sais pas, c'est assez flou. Je me souviens en tout cas de la joie incroyable de savoir lire les devantures, enfin de découvrir que O et U ça fait où, et puis de boulangerie tout d'un coup.
Les devantures des magasins.
Voilà, les devantures des magasins, et c'était vraiment un monde qui s'ouvrait et comme une liberté que je trouvais, quoi. Et voilà. Et après, je pense que j'ai dû apprendre vers 6 ans à l'école, mais je me souviens de Fantômette, du Club des Cinq, de Oui, et puis j'attendais toujours avec impatience Pif Gadget dans ma boîte aux lettres. Et voilà.
C'est intéressant, il y a beaucoup d'invités qui nous parlent de ce souvenir très fort que j'ai aussi, de la manière dont tout un coup le monde et la rue, l'univers s'éclaire par la lecture des devantures. Vous vous souvenez aussi de ça, David Zala, ou c'est associé pour vous à d'autres
mémoires? Moi, c'est associé forcément, bien sûr, à l'image. Et pour moi, le livre, ça a toujours été l'image en premier, évidemment. Enfin, évidemment, je dis évidemment ça maintenant, mais... Et il y a plein de livres que je regardais avant de les lire. Et mes premiers souvenirs sont effectivement des livres pour les du Père Castor, évidemment, Gustave Doré, bien sûr, donc les contes de Perrault illustrés par Doré, et toutes ces choses où finalement l'image avait une telle place, une telle puissance que pour moi ça l'emportait. Et c'est ce qui est resté encore aujourd'hui.
Et vous vous souvenez d'une illustration en particulier, par exemple de Gustave Doré? Vous sauriez nous dire quel conte c'était en particulier?
Je me souviens de cette image avec ce loup gigantesque, avec ce petit chaperon rouge, c'était pas rouge, on était sur du noir et blanc. C'était saisissant, la forêt, son traitement de la forêt était incroyable. Donc j'étais très marqué par cette imagerie qui était en même temps dérangeante et en même temps attirante et inquiétante, évidemment.
Violaine Schwartz, vos premières lectures comme ça d'enfance, elles sont aussi associées à des souvenirs d'illustration.
Oui, oui, je me souviens notamment d'un livre, mais alors c'était les contes et légendes des lacs et rivières. Alors, je sais plus trop dans quelle édition, mais c'était, donc il y avait la Vouivre, il y avait Lorelai, je pense, et c'était des illustrations effrayantes. Mais vraiment, j'arrivais presque pas à les regarder, quoi. Mais je sais plus, c'est un peu flou comme souvenir, mais.
Peut-être. Est-ce que vous vous souvenez, vous sauriez dire, c'est une question difficile, mais, le tout premier conte qu'on vous aurait lu, ou le tout premier conte que vous auriez lu, vous, tout seul?
Alors, moi, il y a un truc qui me revient, parce que c'est vrai que forcément, de par mon travail, il y a des choses que j'entretiens, évidemment. Mais je me souviens très clairement, en fait, avoir associé le petit chaperon rouge à la maison de ma tante. Parce que il y avait un chemin, et donc quand on me racontait le petit chaperon rouge, je voyais cette maison qui était un peu dans la campagne avec ce clair de lune. Il y avait un grand arbre juste devant chez elle, etc.
Et donc ça se passait où ça? C'était où la maison de votre tante?
Ben en fait, étrangement, c'était en ville, c'était avant Envelin, mais à l'époque il y avait beaucoup de champs. Et il y avait des petits chemins avec des framboisiers tout autour. Il y avait des arbres et puis ils avaient en face de chez eux des champs qui maintenant évidemment sont occupés par des immeubles. Mais il y avait cet espace et comme j'y passais beaucoup de temps chez ma grand-mère vu que j'avais à l'époque j'étais plus chez ma grand-mère qu'à l'école. Je me souviens de me promener le soir autour de cette maison et après d'associer le cheminement de ce petit chaperon rouge passant devant cette maison, voilà. Donc, parfois, voilà, les enfants associent leur univers. Finalement, il y a un lien entre réalité et fiction, et ça m'est resté longtemps. Ouais.
Et vous, Violaine Schwartz, le tout premier conte, que ce soit un souvenir reconstruit ou pas, ce serait quoi?
Moi, je me souviens d'un livre qui s'appelait Strouvelpeter, Pierre les Bourriffés, qui était en allemand chez ma grand-mère à Colmar. Et donc, il y a aussi des illustrations assez impressionnantes. Je lisais pas en allemand, mais je me fondais dans les images, quoi. Enfin, je racontais des histoires à partir.
Et votre grand-mère, vous le lisez en allemand, pour le coup?
Peut-être.
C'est le mot allemand qui vous revient, en tout cas.
Oui, oui, oui.
Est-ce qu'il y a un personnage de conte en particulier, soit qui vous aurait particulièrement terrifié, soit auquel vous vous seriez particulièrement identifié, que ce soit dans l'enfance ou aujourd'hui? Je pose la question de manière la plus ouverte possible, Violaine Schwartz.
Oui, alors je me souviens aussi que j'étais allée toute seule au cinéma voir Blanche-Neige, ça devait être à l'époque de sa sortie.
Non, la sortie de Blanche-Neige, je crois que c'est un film qui date de 39 ou un truc comme ça. Mais il y a dû avoir une ressortie. pense que vous vous vieillissez un peu.
Non, d'accord. Mais en tout cas, ça m'avait terrifiée. Et je ne l'ai pas revu depuis. Mais je crois qu'il était quand même assez réussi et fort. Hein, et j'aimerais bien le revoir, en fait.
Ah oui, ça, je vous confirme, ouais. Ça marche du tonnerre, ouais. Aujourd'hui. Et vous, David Salamé, du coup, pardon, dans Blanche-Neige, il y a un personnage en particulier, c'est vraiment la sorcière.
Sorcière, ouais, évidemment,
c'est
épouvantable.
Et vous, David Salamé, c'est aussi Blanche-Neige?
La sorcière, alors c'est vrai que la sorcière dans Blanche-Neige, moi j'ai le souvenir que je la trouvais plus belle, la sorcière de Blanche-Neige, que Blanche-Neige. Et je me souviens de ça.
Bah, c'est vrai.
Je la trouvais extrêmement belle. Je comprenais pas pourquoi elle enviait Blanche-Neige, que je trouvais déjà. Alors, forcément, là, je mets des mots dessus, hein. Enfant,
on parle du Blanche-Neige de Walt Disney, évidemment. Je ne sais même pas si je l'ai précisé.
Maintenant, évidemment, après, si je m'interroge sur les contes papier, c'est vrai que l'ogre, c'était une figure effrayante, évidemment. Par la suite, c'est vrai que, d'ailleurs, je m'en suis aussi un peu servi pour La Belle et la Bête, mais c'est vrai que le film de Cocteau a été visuellement une émotion assez forte quand je l'ai découverte. J'ai découvert ce film assez jeune finalement, mais sûrement lors d'un passage télé. Et c'est un film qui m'a marqué encore aujourd'hui. C'est fait partie de ces films précurseurs avec une imagerie extraordinaire.
Est-ce qu'il y a un conte ou une série de contes, un auteur de contes que vous n'avez pas lu à ce jour, mais dont vous vous dites qu'un jour, il faudra que vous y plongiez, Violaine Schwartz?
Moi, j'ai un petit peu lu, mais pas très sérieusement. Je voudrais bien relire Les Contes d'Émile et une Nuit.
Ah ouais.
Voilà.
Et vous, David Sarah?
Alors, il y a pas très longtemps, j'ai lu 2-3 contes de Andersen. Alors, j'ai pas tout lu, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. L'écriture est incroyable.
Vous les connaissiez pas?
Mais non,
je les avais.
Enfin, forcément, on les connaît sans les connaître, ouais. Mais la lecture en tant que telle, se dire ok, je vais lire vraiment dans le texte et pas uniquement une adaptation ou une version édulcorée, et de voir toute cette cruauté, c'est extrêmement violent. Et je me souviens, alors le peu que j'ai lu, j'ai trouvé ça extrêmement bien écrit.
C'était quoi les contes que vous avez lus en l'occurrence?
Oh, les chaussons rouges. J'ai la mémoire, les chaussons rouges, d'imaginer cette espèce de scène extraordinaire où la petite fille meurt d'épuisement à force de... J'étais étonné. Je sais pas pourquoi, je vais me faire une idée peut-être de la qualité de ces contes. Et en fait, j'étais surpris de voir cet auteur qui a une plume extraordinaire, en fait.
Est-ce que vous diriez qu'il y a un endroit privilégié pour lire des contes ou une compagnie privilégiée, Violaine Schwarz? Un endroit de la maison où vous préféreriez lire des contes ou avec qui, à qui?
Comme ça, on pense immédiatement au coin du feu avec un chat sur les genoux.
Ouais, bon, c'est ce à quoi on pense immédiatement, oui. Mais après tout, pas forcément.
Ah, oui, ça c'est très bien, mais après, moi j'aime bien lire partout en fait. Quand il y a du bruit autour de moi, j'aime bien, dans le métro, ou bien dans des cafés, ou dans le train.
Vous êtes comédienne aussi, Violaine Schwarz. Est-ce que vous diriez que le conte, c'est avant tout quand même quelque chose qui se lit à haute voix? Est-ce que ça vous arrive, vous, de lire pour vous-même quand vous ne lisez pas à un enfant ou à quelqu'un d'autre, à haute voix?
Déjà quand j'écris, enfin, je veux dire quand j'ai traduit les contes, en effet, je les mâchonne, enfin, je les essaye. Enfin.
Vous les mettez en bouche.
Oui, voilà. Ouais. D'autant plus que c'est vrai que j'ai traduit ces contes avec vraiment une visée d'aller vers l'oralité que je pense qu'il y ait dans la langue d'origine et qui est pas forcément qu'on peut peut-être un peu plus pousser. Donc
Et vous, David Salah, endroit privilégié pour lire?
Il y a des endroits un peu rêvés, c'est-à-dire on s'imagine être dans un grenier, un beau grenier avec la pluie qui tombe sur les tuiles. Mais en fait, je le fais jamais. Pourtant, j'ai un grenier, hein, donc je me retrouve
souvent.
C'est dommage. Ouais, mais c'est ça, c'est que il y a le fantasme, et puis en fait, je me retrouve à lire soit dans mon atelier où je travaille, soit sur un fauteuil dans mon salon ou dans le jardin quand il fait beau et quand il n'y a pas de moustiques. Parce que la problématique en ce moment, c'est que les moustiques m'empêchent d'être dans mon jardin parce que effectivement, là, dès que je passe un pas, je me fais voilà. Donc depuis quelques années, je peux plus lire dans mon jardin. C'est une parenthèse qui est importante.
Non, mais c'est très important, voilà. L'endroit où on lit. moi je trouve. Bon, on va plonger dans l'univers des frères Grimm en l'occurrence, et de Hansel et Gretel en particulier. Pour y aller, on va profiter du fait que vous êtes chanteuse, Violaine Schwarz. On n'a pas pu s'en empêcher. On va écouter une chanson interprétée par vous. C'est une chanson du 19e siècle qui à l'origine s'appelait La chanson du fou ou Le fou, mais que vous avez rebaptisé La folle. C'est un peu une manie chez vous, on va y revenir. Vous y êtes accompagnée à la contrebasse par Hélène Labarrière.
L'enfant qui traversait la plaine a dit bonjour à moi, la folle. J'ai voulu prendre son haleine et j'ai mis mes mains sur son cou. Elle a dit d'un ton de prière: que t'ai-je donc fait pour cela? Elle dort sous la bruyère, sous la bruyère, sous la bruyère. Mes deux mains comme dans la pâte se sont enfoncées dans son cou. Puis j'ai continué sans hâte et ses yeux sont sortis du trou. Elle eut une plainte dernière et sur l'herbe elle s'affala. Elle dort sous la bruyère, sous la bruyère. Par les pieds j'ai pris le corps roide et dans la mousse et les genêts. J'ai traîné sa dépouille froide en faisant des moulinets. La ronce accrochait sa crinière, de la chair même si colla. Elle dort sous la bruyère, sous la bruyère, sous la bruyère. Mes ongles ainsi qu'une bêche ont creusé le sol embaumé. Puis j'ai jeté la terre sèche sur son cadavre déformé. La lune coulait sa lumière sur ses seins blancs d'un doux éclat. Le vent dans les pins qui l'agite a mugi le De Profundis. La pluie a versé l'eau bénite. L'encens s'était levé d'hélice et les fleurs lui font un suaire. Moi j'ai chanté sur tout cela. Elle dort sous la bruyère, 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 sous la
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagmann.
Kinder- und Hausmärchen, des contes pour les enfants et pour la maison. C'est ainsi que les frères Grimm avaient choisi de titrer leur recueil de contes, dont le premier volume parut en 1812. Parmi eux, Hansel et Gretel, l'histoire de ce frère et cette sœur livrés, abandonnés, en forêt par les parents et bientôt aux mains d'une sorcière qui a pour ferme intention de les dévorer. Dans la version qu'en propose Violaine Schwarz dans sa traduction, la sorcière est devenue sorcier. Dans les peintures que David Salah a composées pour l'album illustré de cette histoire, elle est majestueuse, toutes de vert parées, tandis que les enfants circulent dans une forêt de gouache bleue, mauve et orangée. Tout ici est affaire de regard, d'interprétation, de traduction, en somme, d'une langue à l'autre, d'une époque à l'autre aussi peut-être, car comme vous le soulignez, Violaine Schwarz, dans l'introduction du livre, les temps changent. Violaine Schwarz, vous faites paraître aux éditions POL une traduction, votre traduction donc, un genre de traduction, comme vous le sous-titrez dans ce livre, de 21 contes choisis par les centaines. Je crois qu'on recense, les centaines qu'on recensait.
Il y en a plus de 200 même.
Plus de 200, voilà. Les frères Grimm. Est-ce que d'abord vous pouvez nous dire comment tout simplement il est né le projet de cette traduction ? Parce que ce n'est pas une mince affaire, on l'imagine, de s'attaquer à leur langue.
Oui, en fait c'est né du théâtre en fait. Je connaissais un comédien qui s'appelle Pierre Beau, qui en faisait des lectures lectures musicales avec un violoncelliste, Vincent Courtois. Et ils en ont fait, ils ont lu l'intégrale ou presque des contes de Grimm il y a très longtemps, dans les années 2000, et ils ont repris cette forme il y a deux ans. Et Pierre Beau m'a demandé si j'étais d'accord pour traduire deux ou trois contes comme ça. Donc j'ai dit ok. Moi je suis pas du tout spécialiste de traduction. J'avais fait une traduction il y a 20 ans. J'avais traduit une pièce de Brecht, Le cercle de craie caucasien, j'avais assisté à un traducteur qui est un germaniste qui a fait beaucoup de traductions, François Rey. Donc j'avais appris un peu les bases de cet exercice. Et puis après j'en ai plus fait. La vie a fait que j'ai fait d'autres choses. Et j'ai traduit 2-3 contes pour pas cette occasion. Et ensuite il se trouve que j'ai été prise. J'ai une résidence d'écriture à la Fondation Jan Michalski. Un endroit extraordinaire, comme ça, à l'orée de la forêt, c'est des cabanes suspendues. Et là, j'avais trois semaines.
Ça tombe bien, à l'orée d'une forêt, pour traduire.
Il y avait même des loups qui rôdaient, enfin, c'était parfait comme endroit. Il neigeait, j'étais en hiver, c'était. Et là, je me suis plongée dans les contes, avec l'idée, en effet, de. Moi, quand je lis en allemand, je trouve que c'est une langue assez simple, très répétitive, et je trouve que quelquefois.
La langue allemande dégrime.
Oui,
vous
la langue
dire.
Originale. C'est assez répétitif, il y a beaucoup de. Et j'ai essayé de rendre ça, Après, Il y a des traductions magnifiques qui existent déjà. Il y en a une notamment chez José Corti de tous les contes.
C'est un peu la traduction de référence.
Voilà. Donc il s'agissait pas. Je trouve que c'est très beau ce qui a été fait, mais là j'essayais de l'éclairer vraiment pour la scène, quoi, pour que ce soit voilà. Et ensuite, à force de fréquenter ces contes de Grimm comme ça journellement, j'en ai eu un tout petit peu assez finalement de la femme dans les contes de Grimm en général. Parce que, justement, pas dans Hansel et Gretel, mais dans la plupart, les femmes sont soit victimes, passives, soit méchantes, sorcières, vieilles, moches, ou alors passives et attendant le prince charmant, quoi. Mais il y a quelques contes qui font exception, quand même, dont, par exemple, Hansel ou Gretel, où c'est quand même Gretel qui sauve son frère.
C'est Gretel qui sauve son frère, et c'est la mère qui les envoie...
Alors, c'est marâtre.
Enfin, oui, voilà,
c'est
marâtre.
C'est assez étonnant, cette histoire, parce qu'en fait, les frères Grimm, ils ont travaillé toute leur vie autour des contes de Grimm. Et en fait, évidemment, il y a 7 éditions différentes des contes de Grimm. Et c'est drôle, parce que, justement, dans Hansel et Gretel, au début, c'était une mère qui était méchante. Et en fait, au fur et à mesure des versions différentes, ils ont transformé les mauvaises mères en marâtres pour préserver l'image de la femme idéale. Et du coup, ils ont inventé ce personnage de marâtre qui est la mauvaise mère, mais qui voilà. Mais ce qui est drôle, c'est que dans Hansel et Gretel, en fait, il y a des fois où c'est marqué la mère et des fois la marâtre, comme s'il y avait encore des vieilles traces de.
On va revenir plus précisément tout à l'heure à vraiment la spécificité de ce conte-là, mais je voudrais qu'on reste encore un petit peu un moment sur votre travail de traduction dans l'ensemble, et d'abord que vous nous disiez un peu votre lien à l'allemand, parce que vous le disiez, vous n'êtes pas traductrice de formation ou de pratique habituelle. Dans une très jolie introduction au livre qui est écrite elle-même comme un conte, vous racontez les soubassements aussi personnels de cette histoire-là, de cette aventure-là. Vous parlez de votre grand-mère que vous évoquiez déjà tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire tout simplement c'est quoi votre lien à cette langue-là qu'est l'allemand ?
Ben en fait, moi, je suis née à Strasbourg et donc j'ai appris l'allemand en sixième. C'est la première langue que j'ai apprise. Ma grand-mère parlait alsacien, enfin, est alsacienne, m'appelait Schätzele avec des petits mots alsaciens. Et puis,
mon petit trésor, ça veut dire.
Mon petit trésor, voilà. Michele, petite souris. Et puis voilà, après, j'ai beaucoup aimé apprendre l'allemand, en fait.
Vous dites aussi que le jeu sur le genre, hein, de façon générale, puisque donc on l'a compris, vous faites basculer certains personnages d'un genre à l'autre. Ce qui est très amusant, étonnant, c'est qu'à la fois ça change la lecture qu'on peut faire de plein de contes, mais pas forcément comme on l'attendrait. Ça crée plein de pistes d'interprétation nouvelles. Vous racontez aussi dans cette introduction que cette idée-là, elle est née d'une adolescente qui passe à un moment sous vos yeux. C'est vrai, cette histoire-là ? C'est votre fille, tout simplement, avec qui vous avez un échange ? Ou vous l'avez raconté un peu comme
non,
ça dans ça, le conte ?
Mais c'est vrai que j'ai une fille de 20 ans qui me parle beaucoup d'histoire de genre, enfin, qui s'interroge beaucoup sur ce sujet-là. Mais après, non, l'idée, elle est vraiment venue, en effet, de comme je vous dis, enfin, je me suis dit, mais pourquoi je continue à perpétuer ces histoires où les femmes sont toujours bloquées dans ce cadre-là, quoi.
Et vous citez Simone de Beauvoir, hein, en exergue du livre Un passage du deuxième sexe, où elle parle de ça, du fait que dans les contes, la femme attend désespérément un prince charmant qui vient la sauver. Comment il s'est fait le choix des 21 contes, à part ceux que vous aviez traduits, donc les trois déjà traduits pour le théâtre?
Il s'est fait justement en fonction de où ça pouvait être intéressant de changer. Enfin, j'ai pris des contes où les femmes étaient importantes, où ça valait le coup. Par exemple, il y en a un qui s'appelle De celui qui part pour apprendre à avoir peur, que j'ai transformé en De celle qui part. Je trouvais ça rigolo que ce soit une femme qui tout d'un coup ait peur de rien du tout. Mais ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a des contes connus, il y a des contes pas trop connus, parce que voilà.
Il y a Cendrillon.
Oui, il y a Cendrillon, il y a La Belle au Bois dormant, il y a Le Petit Chaperon Rouge.
Mais qui ne s'appelle pas du tout Le Petit Chaperon Rouge. Du coup, comment s'appelle-t-il ?
Petit Béret Rouge.
Voilà.
Mais il y a aussi des qui ne sont pas trop connus, comme par exemple Fidèle Jean, qui est devenu Fidèle Jeanne. Et les contes sont faits. C'est tellement fort, ces histoires. La narration est tellement puissante que j'en ai fait des lectures en public. Et en fait, les gens. Par exemple, Fidèle Jean, on peut pas savoir que... Enfin, Fidèle Jeanne, ça marche très bien. Sauf que la seule chose qui est un peu étrange, c'est qu'en effet, une femme a un rôle tellement important. Mais...
Oui, les gens qui découvrent le conte sous votre plume n'ont aucune idée qu'il y a une transformation, alors que parfois, il y a tout un jeu avec ceux qu'on connaît.
Oui, par exemple, le petit chaperon rouge, en effet, tout d'un coup, le loup devient une louve, et le petit chaperon, un petit garçon, c'est un grand-père. Là, je m'amuse un peu avec les lecteurs, ou Barbe Bleue.
Oui, bien sûr. Mais il y a une dimension, je trouvais, assez passionnante dans tout ça, au-delà de la manière dont ça résonne avec cet enjeu général qui est qu'est-ce qu'on fait de la lecture des contes aux enfants et des stéréotypes de genre ou ethniques qui véhiculent. C'est la question fondamentale de la traduction. C'est-à-dire que vous posez la question vous-même en ces termes-là dans l'introduction sans y répondre, il me semble. Est-ce que c'est une traduction? Est-ce que c'est une adaptation? Comment il faut nommer la chose? Mais au fond, toute traduction est une adaptation, je veux dire, dans la manière dont le traducteur traduit.
Oui, oui, bien sûr.
La frontière, elle n'est pas si claire à définir, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Le Book Club, c'est aussi une communauté de lecteurs qui nous adresse des questions ou des remarques. Je vous propose qu'on écoute la remarque de Céline, qui se souvient de la manière dont elle a découvert les contes de Grimm, justement.
J'ai conservé un gros livre de contes de mon enfance, les contes de Grimm, que j'ai prévu de transmettre à ma fille. Je réserve ça plutôt pour quand elle aura 6 ou 7 ans. C'est à cet âge-là que j'ai moi-même commencé à les lire. Là, aujourd'hui, elle a 4 ans et ce que je lui lis, ce sont plutôt des réécritures de contemporaines de contes. Donc, ces réécritures que je lui lis, elles mettent en scène des enfants qui interagissent avec le conte, qui aident le héros, la princesse dans leurs aventures. Donc pour le coup, je suis curieuse en fait de voir quel regard elle aura sur les classiques quand on les lira ensemble. Son regard en fait sera sûrement différent du même âge et en fait c'est ça qui va déterminer la manière dont on en parlera ensemble du caractère sexiste de certains contes. Mais après, j'ai pas non plus envie de les réduire à ça. Ce que j'aimerais avant tout, c'est qu'elle aime les lire et les relire, comme moi j'ai pu aimer le faire quand j'étais enfant.
Merci beaucoup Céline pour cette remarque qui ouvre en fait sur plusieurs dimensions. D'abord cette question toute bête que j'ai envie de vous adresser à tous les deux, Violaine Schwartz et David Salah. À votre avis, ça peut se lire à partir de quel âge les contes de Grimm? On peut les lire à un enfant à partir de quel âge, David Salah, vous diriez quoi?
Plutôt possible. quel âge? Oh, je dirais... 5-6 ans, peut-être, ça commence.
Céline, elle dit, ma fille, elle a 4 ans, alors peut-être pour d'autres raisons, mais j'attends qu'elle ait 6 ou 7 ans
pour lui lire. Peut-être. Oui, enfin, on est dans une fourchette proche. Oui, moi, je dirais 5-6 ans, déjà, quand on commence à rentrer dans la lecture, on a une maturité. Et puis, il y a une recherche aussi de se faire peur à cet âge. Moi, dans mon souvenir... effectivement, il y a des choses qui m'ont marqué. Alors, je dirais pas comme Tominger, le but n'est pas de les traumatiser les enfants, mais il y a un petit peu de ça quand même. Je comprends la démarche de Tominger là-dessus, c'est-à-dire que oui, il faut que très tôt, il y a des choses qui s'expriment, des frayeurs. Moi, j'ai des souvenirs de cauchemars très jeunes, donc il n'y a pas de raison de pas mettre des mots sur quelque chose. Et évidemment qu'il y a des thèmes, peut-être en parler dans une celle qui sont des thèmes archaïques.
Mais c'est aussi que la peur, tout simplement, c'est un plaisir de lecture. Violaine Schwartz, vous diriez quoi? Vous diriez que quand même, faut pas y aller trop jeune ou en fait, la question se pose pas en ces termes?
Je pense que les enfants, ils aiment bien avoir peur, mais il y a des certains contes de Grimm qui sont quand même très effrayants. Par exemple, Barbe Bleue.
Faut choisir, il y a des
choses. Choisir, voilà.
Il y en
a qui s'appelle Le Conte du Genévrier, qui est vraiment épouvantable, mais peut-être que...
Racontez en quelques mots ce que ça raconte, ce conte-là.
Le Conte du Genévrier, c'est... attendez, c'est une marâtre, encore une horrible marâtre, qui un père qui perd sa femme, qui a un petit... Alors normalement, c'est c'est un garçon, je crois. Et puis la marâtre a une fille qu'elle préfère au garçon de l'ancienne femme. Et elle tue le garçon. Le garçon, enfin, elle le tue, elle le décapite, elle le fait cuire, elle le donne à manger au père, qui mange son propre fils. Et puis ensuite, le garçon en question, la petite sœur récupère les os de son frère, parce que le père mange, jette les os par terre. Les os se transforment en un oiseau, enfin, le met sous le fameux genévrier magique, et ça devient un oiseau, et qui se venge, en fait. Et l'oiseau chante, c'est une chanson magnifique, et il récupère un collier, machin, une meule, et puis il revient après avoir tout récupéré partout, il revient chez ses parents et il jette la meule sur l'affreuse marâtre. Mais ça fait assez peur. Puis bon, il y a quand même cette histoire de cannibalisme.
Ouais, mais il y a une jouissance aussi justement dans cette terreur là. Enfin, en tout cas, c'est celle qu'on ressent adulte. Bah, alors oui. Peut-être enfant, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui vous a fait choisir David Salah? D'abord, est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée, l'envie d'adapter ce conte-là en image? Et si oui, pourquoi Hansel et Gretel?
Alors, pour plein de raisons. C'est vrai que pour moi, ce conte, il est emblématique des terreurs fondamentales des enfants. Donc, la peur de l'abandon, évidemment. Et puis, la peur de l'ogre. Enfin, là, c'est une sorcière, mais c'est le... Il y a ce lien de l'extérieur, de l'étranger qui est menaçant. Et il y a aussi, effectivement, de mon histoire personnelle, ce que j'ai pu aborder un tout petit peu dans Le Poids des Héros, effectivement, de mon expérience. J'ai eu dans mon enfance un camarade qui a été enlevé et assassiné. Et j'étais jeune, j'étais en primaire, et effectivement, le conte prenait... prenait vie quelque part. Et évidemment.
Mais à l'époque même, vous aviez connaissance de ce conte-là, ou c'est plus tard, en le relisant ou en le lisant, que ça a fait écho pour vous?
Je crois que ces histoires-là, je les connaissais déjà, évidemment. Pas forcément Hansel et Gretel, mais ça peut être Le Petit Poucet, ça peut être plein. Il y a plein de contes qui ressemblent.
Les Hansel et Gretel et Le Petit Poucet ont plein d'éléments en commun sur la première partie, où le petit garçon sème les cailloux.
Ouais, c'est pas forcément, mais peut-être plus Le Petit Poucet que je connaissais très bien. Mais au-delà de ça, de la menace de l'adulte. Et l'adulte devenait, est devenu pour moi, une possibilité de générer une peur extrême, finalement.
Je vous propose qu'on écoute un passage du conte dans votre traduction, Violaine Schwartz. On est à un moment, déjà l'histoire est bien avancée, les enfants sont rentrés dans cette incroyable maison en sucre qui est celle que la sorcière, le sorcier met sur leur chemin. C'est Jeanne Aléos qui va nous lire ce passage.
Hansel, qui trouve le toit particulièrement bon, s'en arrache un gros morceau. Et Gretel décroche une belle lucarne toute ronde et elle se régale assise par terre. Mais tout à coup, la porte s'ouvre et un homme, vieux comme les pierres, appuyé sur une canne, fait son apparition. Hansel et Gretel ont tellement peur qu'ils lâchent tout ce qu'ils ont dans les mains. Mais le vieillard hoche de la tête et dit « Eh bien les enfants, les enfants chéris, c'est qui vous a amené jusqu'ici ? Mais entrez, vous pouvez rester chez moi, il ne vous arrivera rien de mal. » Il prend les deux enfants par la main et les emmène dans sa maisonnette. Et là, un bon repas leur est servi. Du lait avec des crêpes, du sucre, des pommes et des noix, puis deux jolis petits lits les attendent, bien bordés, tout blancs, et Hansel et Gretel s'y allongent en croyant être au paradis. Mais le vieillard a fait semblant d'être aimable. En réalité, c'est un méchant sorcier à l'affût des enfants. Il a fabriqué une maisonnette en pain juste pour les appâter. Et quand il arrive à en choper un, il le tue, il le cuit et il le mange.
Ce passage de Hansel et Gretel lu par Jeanne Aléos, et dans la traduction que vous en proposez, Violaine Schwartz, on entend donc que la sorcière traditionnelle est devenue un sorcier. Et puis aussi ce motif présent du début à la fin de l'histoire, qui est le motif de la nourriture. C'est un conte où il est question de manger ou de ne pas manger tout le temps. Au début, les parents sont dans la misère, affamés, enfin la famille, et c'est aussi pour ça qu'ils abandonnent leur enfant dans la forêt. Et puis on entend cette utilisation du présent que vous faites, Violaine Schwartz. Qu'est-ce que ça produit à le réécouter comme ça, à votre avis, ce présent-là?
Bah, c'est vrai que ça, c'est une liberté que j'ai prise par rapport à la langue originale, mais je trouve que je démarre toujours au passé, en fait, comme tous les contes commencent, il était une fois, etc. Et puis, un jour, en général, c'est au bout de trois lignes, il y a un jour où soudain, là, je bascule au présent, parce que je trouve que ça les rend, ça dynamise la narration, ça la rend plus active, plus, surtout pour être dit, quoi. Enfin, voilà.
David Sala, quand vous écoutez ce passage-là, quel écho ça fait pour vous par rapport à la lecture ou aux images que crée chez vous le conte? Parce que c'est très intéressant de comparer vos deux lectures du conte, parce que c'est très différent, dans votre histoire, dans vos images, dans vos peintures, David Sala. La maison de la sorcière, par exemple, vous insistez pas tellement sur le côté les lucarnes à dévorer comme ça. Vous faites de cette maison une maison de laquelle sortent une sorte de torrent de guimauve, mais qui a une maison de forme classique. Ce passage-là, il évoque quelles images chez vous, par exemple?
C'était un passage compliqué, évidemment, à mettre en image. Essayer de trouver une manière différente de l'aborder, parce que c'est un conte qu'on a pu voir des dizaines, des centaines de représentations de cette maison qui, en général, se ressemblent. Et je voulais faire de cette maison, en fait, c'est le même principe que pour la forêt, c'est-à-dire que je voulais qu'elle soit un peu vivante. Et de montrer cette maison qui rejette, alors on peut interpréter ça comme on veut, mais ça peut être de la guimauve, ça peut, il y a un côté un peu organique, il y a un truc un peu étrange.
Un peu comme des boyaux, ouais. On peut imaginer ça.
Il y a un côté un peu charnel également. On peut y voir plein de choses. Donc, j'ai plutôt insisté sur l'odeur que dégageait cette maison, une odeur sucrée évidemment. Mais je voulais que chaque élément puisse avoir un rôle actif. Et la forêt, je l'ai représentée. Elle est vibrante. Elle est presque vivante. Et la maison, je voulais aussi qu'il se passe quelque chose. Qu'elle soit pas passive, évidemment. Donc, le fait d'avoir cette espèce de torrent de sucreries par-dessus lesquels les enfants passent, par ce pont, qu'ils observent cette maison qui pourrait presque être vivante, finalement, qui a presque une conscience propre. Peut-être que c'est la maison directement qui les appelle. Enfin, voilà. On imagine des choses quand on illustre un conte, et forcément, l'idée, c'est d'aller ailleurs. Poser une autre vision.
Quand on regarde vos images, vos peintures pour cet album, on a l'impression que c'est pas nécessairement sur la dimension effrayante du conte, et Dieu sait s'il l'est, que vous avez voulu insister, ou si c'est pas nécessairement cette dimension-là qui vous a nourri dans la composition des images. Je sais pas si vous diriez les choses comme ça. Je dis ça parce que, par exemple, la sorcière, telle que vous la représentez, j'ai dit plusieurs fois, elle est majestueuse. Moi, je la trouve très belle et pas nécessairement effrayante.
Oui, mais ça, je pense, c'est une déformation de mon intérêt pour la criminologie, on va dire. C'est-à-dire que les méchants sont jamais méchants. Les vrais tueurs sont toujours sympas.
Donc, c'est encore pire.
Donc, bien sûr. Sinon, on n'attire pas les enfants. Donc, d'avoir une vieille sorcière ou un vieux sorcier qui sent pas bon et qui a les forcément, on peut se méfier. Je pense que tous les prédateurs, que ce soit les criminels, les prédateurs sexuels, savent comment s'adresser aux enfants. Et en général, ils sont extrêmement sympas. D'ailleurs, on dit toujours que chaque fois qu'on est surpris d'avoir un tueur en série, mais on s'étonne, il est tellement gentil et tellement serviable. Donc, évidemment que cette sorcière, je peux pas lui mettre une étiquette. Il faut qu'elle soit... Elle est ambiguë, évidemment, mais on a envie de lui faire confiance. C'est quelque chose de rassurant aussi. Voilà.
Si vous deviez vous faire vous-même l'exégète de votre traduction, Violaine Schwartz, ce passage de la sorcière au sorcier, à votre avis, il produit quel effet?
Bon, en fait, c'est vrai que dans chaque, sur les 21 contes que j'ai traduits, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais changer dans chaque conte un genre. Alors, c'est vrai, par exemple, pour Hansel et Gretel, c'était un petit peu, j'ai changé la sorcière en sorcier, parce que, comme je le dis, je voulais pas changer Gretel en Hansel, et voilà. La marâtre, on pouvait pas trop la changer en parâtre, ça marchait pas. Et donc, c'était un petit peu le seul choix que j'avais, et ce qui m'ennuie un peu, c'est que c'est vrai que cette sorcière, disons que c'est une femme qui a du pouvoir, un grand pouvoir quand même. Donc, bon, c'est un sorcier. Qu'est-ce que ça produit?
Dans la manière comme ça dont il attire les enfants dans la maison, on a d'autres, je sais pas, d'autres types de terreurs, je trouve, qui sont convoquées.
Oui, par exemple, ça se passe aussi dans Réponse, où en effet, c'est aussi un sorcier. Et là, ça convoque aussi d'autres choses, parce qu'en effet, enfermer une jeune fille sans porte ni fenêtre, tout en haut d'une tour, et aller la voir tous les jours, on se demande si c'est un sorcier, ça trimballe un autre imaginaire, d'autant plus qu'à la fin, on découvre qu'elle est enceinte. Réponse. Voilà. Est-ce qu'elle est enceinte du prince qui est monté ou bien de sorcier?
Est-ce qu'il y a des difficultés comme ça, très, très concrètes, de traduction, de termes ou, sur lesquels vous vous êtes particulièrement arraché les cheveux dans ce parcours-là?
C'est vrai que traduire, de toute façon, c'est assez vertigineux, c'est passionnant, mais c'est toujours un échec en vérité. On n'y arrive jamais. Et il y a des choix. Il faut faire sans arrêt des choix, et c'est compliqué. Par exemple, je me souviens de Dornröschen. Ça, c'est La Belle au Bois Dormant, qui est très souvent traduit par La Belle au Bois Dormant quand les contes de Grimm sont traduits en français. Mais ça ne veut pas du tout dire ça, en fait. Dornröschen, ça veut dire rose d'épine ou petite rose d'épine. Mais comme c'est inspiré, comme c'est vraiment issu du conte de Perrault, La Belle au Bois Dormant, c'est retraduit par La Belle au Bois Dormant. Mais
oui, c'est-à-dire que les premiers traducteurs n'ont pas osé toucher à cette traduction devenue canonique, La Belle au Bois Dormant, alors que ça n'a rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir. Donc en effet, chez José Corti, c'est traduit Rose d'Épine, mais Rose d'Épine, quand on dit ça, personne ne voit ce que c'est.
Et vous avez choisi.
Et moi, finalement, c'est même ce conte-là qui m'a donné envie de changer. Enfin, aussi, ça venait aussi de ce problème de Dornröschen. Et donc, j'en ai fait un petit garçon parce que je pense que ça marche très bien. C'est assez rigolo d'imaginer un garçon qui dort 100 ans en attendant une princesse qui vient le réveiller et d'imaginer des princesses qui se battent contre des ronces et qui sont hyper fortes. Ça m'amusait. Et du coup, j'ai appelé ce petit garçon Petit Églantier. Petit Églantier, on a le petit de on a Églantier, ça a des épines, Petit Églantier, ça me semble bien.
Et ça souligne aussi toute la dimension très importante dans ce conte-là, mais dans plein de contes de Grimm, qui est celle de la végétation, de la forêt, on en a parlé pour
les épines,
pour Hansel et Gretel. C'est très présent dans presque tous les contes, je trouve. Je vous propose qu'on écoute une autre question qui vous est adressée. C'est Ilia qui a lu l'album dont vous êtes l'auteur, David Sala, et il voulait vous poser cette question.
Bonjour le Book Club, bonjour David Sala, et merci pour ce Hansel et Gretel et pour ces couleurs aussi incroyables. Franchement, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est les scènes de forêt, d'arbres, où on sent vraiment les textures, les coups de pinceau, les coups de couteau. Et puis, dans l'ensemble de ce bouquin, on a des couleurs complètement flash. Vous osez aller dans des endroits où on ne va pas, et ça rend l'illustration de ce conte encore plus intense. Un conte qui, déjà, quand j'étais petit, je trouvais intense, et donc, quand on sort de la lecture de Hansel et Gretel, dont on avait déjà des souvenirs parfois presque perturbants, le voir à votre manière le rend encore plus sombre d'une certaine manière. Et ce qui me pousse à me demander, est-ce que votre style graphique, est-ce que c'est vraiment un style qui s'adapte pour le livre pour enfants ?
Merci beaucoup, Ilia, pour cette question. Alors, je ne sais pas s'il la pose avec l'idée que peut-être ce style, il s'adapte pas tout à fait aux enfants. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement ce qu'il a en tête. Mais comment vous y répondriez à cette question ? Est-ce que votre style graphique s'adapte à un livre pour les enfants ? David Sala.
Eh bien, je serais bien capable de répondre à cette question-là. Alors, c'est pas mon premier livre. Donc c'est vrai que chaque livre développe une technique particulière. Donc celui-ci, ressemble pas au précédent. J'essaye évidemment de faire que mes images soient les plus simples possible, mais je simplifie pas. C'est-à-dire qu'elles peuvent rester complexes, mais j'espère qu'elles sont accessibles aux enfants. Oui, moi je fais des livres pour les enfants, mais bande dessinée ne ressemble pas à ça. Donc il y a une volonté de d'être dans ce travail visuel le plus émotionnel possible.
Concrètement en termes pictural, ça change quoi, le fait que vous ayez en tête que ce livre-là il sera dans les mains d'enfants?
Alors, d'un côté, j'enlève pas l'exigence que je peux avoir pour la recherche graphique, mais c'est vrai que j'essaye que l'image soit le plus lisible possible, qu'il y ait parfois des zones un peu d'ombre ou peut-être des ambiguïtés, parce que ça fait partie aussi de mon travail. Mais mon but premier, c'est de surprendre, c'est de proposer un voyage. Donc cette forêt, certainement que les enfants n'en ont jamais vu des comme ça, évidemment, mais c'est mon travail. Il consiste à aller chercher autre chose. Pourtant, les arbres, on les reconnaît, mais c'est une autre forêt.
Alors, il faut peut-être les décrire un peu, hein, ces arbres. Donc, ils sont faits, Ilia en parlait. Hein, on sent vraiment beaucoup la matérialité. J'ai dit de la gouache tout à l'heure. D'ailleurs, je ne suis pas du tout sûre que j'ai raison.
Non, c'était la peinture à l'huile. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose que j'avais envie de travailler sur quelque chose d'un peu... d'un peu liquide. L'huile, ça ne travaille pas de manière liquide, c'est pas de l'aquarelle, c'est pas de la gouache. Donc j'ai essayé de trouver une manière de retrouver ce côté très parfois transparent où il y a finalement des glissements de peinture, parfois des troncs d'arbres, c'est juste une couleur de peinture par exemple. Donc j'ai utilisé ce qu'on appelle du médium, donc beaucoup de médium. Ce qui fait que la peinture est toujours pas sèche d'ailleurs, parce que ça ralentit le séchage de la peinture, mais ça m'a permis de jouer sur des textures et aussi sur parfois quelque chose que je ne contrôlais pas toujours, voilà. Un côté un peu aléatoire. Alors après, mon travail, c'est de maîtriser l'aléatoire, mais ça me donnait des matières surprenantes qui étaient dues effectivement au médium en lui-même. Et voilà.
Et les arbres, ils sont tout en rondeur aussi, je trouve, parce que du coup, on voit comme ça des traits de pinceau, j'imagine, mais l'arbre a une forme, oui, tout en courbe, tout en rondeur, pas du tout avec ces images qu'on a pu voir, enfin que moi, en tout cas, j'associe beaucoup aux forêts des contes de Grimm, c'est-à-dire un amas de branchages comme ça qui s'entremêlent et qui viennent encercler les personnages. Là, on est dans une forêt qui, du point de vue des courbes en tout cas, a quelque chose d'une forme de douceur, je trouve.
C'était pour retrouver justement toujours cette idée de faire de cette forêt un personnage et donc retrouver quelque chose d'organique. Et l'organique, il y a une rondeur dans l'organique. Et effectivement, de jouer sur cette texture, cette peinture qui coule, qui se mélange, me donnait ça. Maintenant, je pense que ça lui donne une certaine douceur. Et en même temps, comme on n'arrive pas à la percevoir, elle ressemble pas à ce qu'on s'imagine. Elle peut devenir un peu envahissante, et comme une sorte de piège finalement qui les entoure. Il y a une image où ils dorment, ils sont allongés dans le sol comme ça. Et il y a ces arbres qui deviennent de plus en plus étranges. Plus on s'éloigne, plus ils deviennent étranges. Donc c'est ce contraste là, effectivement, et de sortir de ce qu'on s'imagine être une forêt menaçante. Donc, de donner peut-être de nouveaux codes à la forêt angoissante.
Et cette image où ils sont allongés, en effet, en tout cas, celle qui me vient en tête quand je vous écoute, elle m'a fait penser aussi à certains tableaux de Klimt, comme ça, où on voit des personnages enchâssés l'un dans l'autre. Est-ce que vous aviez des références, vous, ou des sources d'inspiration pour ce travail-là en particulier ?
Pas particulièrement. C'est vrai que cette technique-là, justement de peinture à l'huile, je l'avais jamais expérimentée et je l'ai jamais vue en fait chez d'autres peintres. Donc il a fallu trouver quelque chose dans cette forêt. Klimt, il travaille de manière plutôt réaliste. Ses forêts sont réalistes. Il ne travaille pas de ce que je connais de lui, pas dans cette espèce d'abstraction de la végétation. Ses forêts de bouleau, elles sont presque photographiques en réalité. Donc il n'y a pas ce travail finalement organique et où on ne sait plus où est le sol, où est le branchage, où est le tronc, etc. Donc j'aime beaucoup Klimt, mais là je pense que j'en suis loin en fait.
Et la gamme des couleurs, parce qu'Ilia la mentionnait aussi dans sa question, le choix de la gamme des couleurs, dont le choix de cette couleur qui fait les cheveux des deux enfants, une espèce d'orange en effet très, très vif, presque fluo, c'est arrivé comment cette décision-là ?
C'est purement graphique, c'est pour qu'on les voit de loin. c'est des moyens parce que eux sont habillés. Il fallait pas. C'était des vêtements qui pouvaient éventuellement laisser imaginer que leurs vêtements soient de riches constitutions, mais voilà, ils sont habillés pauvrement et donc le seul élément qui pouvait les faire ressortir, c'était leurs cheveux. Donc voilà, donc j'ai accentué un peu plus, j'ai poussé le curseur vers un orange, presque un rose fluo parfois.
Un grand merci à tous les deux, Violaine Schwartz et David Sala, d'avoir été avec nous pour évoquer Hansel et Gretel et les contes de Grimm. David Sala, votre album magnifiquement illustré est paru aux éditions Casterman, et Violaine Schwartz, votre genre de traduction des contes des frères Grimm a paru dans le format poche des éditions POL. Je signale aussi qu'on pourra vous entendre les lire à la Maison de la Poésie le 19 novembre prochain avec Pierre Beau dans le cadre du festival Paris en toutes lettres, ou encore le 30 novembre à la bibliothèque de Montricou dans le Tarn. Je crois, c'est ouvert aux petits et aux grands.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
15h50, comme chaque jeudi à cette heure dans le Book Club, nous prenons des nouvelles du livre en dehors de nos frontières grâce au vaste réseau des correspondants de la rédaction internationale de Radio France. Aujourd'hui, cap sur le Liban avec Noé Pignette qui est avec nous en direct depuis Beyrouth. Bonjour Noé.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Noé, le Liban est un pays où la littérature, notamment francophone, est très prolifique, on le sait. C'est un pays marqué par de nombreuses guerres et qui se trouve à nouveau aujourd'hui pris dans le conflit israélo-palestinien. Noé, vous couvrez pour France Culture l'actualité dans cette région qui s'embrase à nouveau depuis le 7 octobre dernier. Vous vous êtes interrogé sur la place de la guerre dans la littérature libanaise, précisément.
Oui, et je vais d'abord vous citer quelques romans que vous connaissez, j'en suis sûr. Hein, Le quatrième mur de Serge Chalandon, Les Désorientés de Amin Malouf, qui a été récemment élu secrétaire perpétuel de l'Académie française, ou encore Beyrouth sur Seine de Sabil Khoussoub. Il a, lui, reçu le prix Goncourt des lycéens cette année. Et on se rend compte que dans la littérature libanaise, eh bien, il est presque toujours question de la guerre. Parfois, les auteurs en font le sujet principal de leur ouvrage. Le plus souvent, elle est un décor sanglant qui bouscule la vie des personnages. Évidemment, le conflit qui revient le plus, c'est la guerre civile libanaise entre 75 et 90. Mais on trouve aussi des romans dont les récits s'inscrivent dans le contexte de la guerre de 2006 qui a opposé le Liban à Israël, justement. Et plus récemment, beaucoup d'auteurs se sont intéressés aux printemps arabes et notamment à la révolution syrienne qui a eu d'immenses répercussions au Liban. Le pays accueille aujourd'hui encore plus de 2 millions de réfugiés qui ont fui les bombes de Bachar al-Assad. Bref, les drames de la région nourrissent les œuvres littéraires. Les livres cherchent souvent à analyser les racines de la violence au Proche-Orient. Oda Rizek, est professeur de littérature à l'université libanaise. Et les événements actuels lui ont immédiatement rappelé un livre de Jabour Douaihi, Pluie de juin. Ce roman raconte l'assassinat de dizaines de chrétiens dans le nord du Liban sur fond de rivalités familiales et claniques. Ça se déroule 18 ans avant le début de la guerre civile et ce massacre est vu par beaucoup ici comme l'un des événements fondateurs du conflit qui a ravagé le pays pendant 15 ans.
Jabour Douaihi relate un crime qui s'est déroulé dans une église dans les années 50. Vous allez me dire que quel rapport ça a avec notre présent. Effectivement, pour moi, ça a un grand rapport parce que ce livre m'a appris la chose suivante. On tue l'autre poussé par un sentiment aveugle d'appartenance à un clan. On tue l'autre et on se croit dans son droit d'anéantir l'autre pour demeurer fidèle à son appartenance tribale, religieuse ou ethnique. Est-ce que cela n'explique pas les guerres d'aujourd'hui? Cette haine?
Et cette professeure rappelle qu'expliquer l'origine du mal, comme le fait ce livre et beaucoup d'autres, ne vise surtout pas à excuser la violence, mais à en comprendre les causes pour éviter peut-être que l'histoire se répète.
Et dans la région, Noé, les romans tiennent aussi souvent le rôle de livre d'histoire.
Oui, car dans un pays comme le Liban, les faits historiques sont sans cesse manipulés par les différentes milices au pouvoir et des pans entiers de l'histoire du pays sont tout simplement passés sous silence. La guerre civile est par exemple toujours complètement absente des manuels scolaires 33 ans après la fin du conflit. La littérature libanaise s'obstine donc à combler ce vide mémoriel. Sharif Majdalani est écrivain, lauréat du prix Femina pour son livre « Beyrouth 2020, journal d'un effondrement ».
La littérature a cette fonction de relecture de l'histoire pour faire émerger les non-dits de l'histoire, les oublis, tout ce que l'historiographie officielle n'a pas pris en considération, a volontairement refoulé. La littérature a comme rôle de les faire revenir à la conscience, de les re-raconter, de les raconter autrement. Et bien entendu, de les raconter à partir du vécu de personnages qui rendent beaucoup plus sensibles, beaucoup plus tangibles, beaucoup plus compréhensibles aussi l'épreuve que les hommes ont du passage du temps, de l'histoire elle-même et des conflits qui les meurtrissent dans leur chair.
Dans un Liban rongé par le sectarisme, la mémoire commune est étouffée par les seigneurs de guerre qui tiennent toujours les rênes du pays. La société civile et les artistes, qu'ils soient écrivains ou cinéastes, portent donc à bras-le-corps ce combat pour la mémoire et l'histoire. C'était d'ailleurs devenu une des revendications principales du grand mouvement de contestation contre les élites qui a secoué le Liban en 2019. Et à nouveau, depuis l'explosion du port de Beyrouth en 2020, on voit beaucoup d'intellectuels qui s'interrogent sur l'origine du drame et publient même des livres-enquêtes qui tentent parfois de désigner des coupables. Et si c'est aux écrivains de faire ce travail, c'est que la classe politique et la justice corrompue s'obstinent inlassablement à entraver l'enquête. Mais ce combat pour la vérité est périlleux. Ces intellectuels deviennent souvent la cible des dirigeants politiques et de leurs milices. Plusieurs, comme le journaliste et auteur Samir Asir en 2005 ou plus récemment, l'essayiste Lokman Slim, ont été assassinés.
Un grand merci Noé d'avoir été avec nous depuis Beyrouth. On renverra bien sûr sur le site de l'émission et de la chronique à toutes les références de ces romans que vous avez cités. Cette chronique, Lecture sans frontières, est à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. C'est l'heure de notre grand jeu des pages musicales. Je vous en rappelle le principe pour que vous puissiez jouer avec nous. Si, au détour d'une lecture, vous tombez sur l'évocation d'un morceau musical, faites donc une petite photo de l'extrait en question ou relevez-le par écrit et envoyez-le nous via le compte Instagram du Book Club ou encore sur notre adresse mail lebookclub@radiofrance.com. Cela nous permet de former une collection d'extraits que nous avons dans nos malles et chaque jour, nous en choisissons un pour le partager avec vous. Aujourd'hui, nous remercions Franck qui nous a envoyé cet extrait de Charlotte, le roman de David Foenkinos paru en 2014 chez Gallimard, inspiré de la vie de l'artiste peintre Charlotte Salomon. Dans le passage que je vais lire, c'est un personnage qui exprime un point de vue qui n'est que le sien, bien sûr. Alfred se lance dans un monologue sur la vie du musicien. Tu sais, Schubert n'était pas très doué avec les femmes. Il était petit et se trouvait difforme. Avec tout ce qu'il a composé, il connaissait peu le sexe. Il est mort quasi vierge. On le sent parfois en l'écoutant. Ses mélodies hongroises sont celles d'un puceau. Il n'y a pas de chair chez Schubert. Et puis il a couché avec une prostituée qui lui a refilé une maladie mortelle. Son agonie a duré des années. Pauvre Schubert, n'est-ce pas ? Enfin, il a maintenant un chat qui porte son nom. C'est une forme de postérité tout de même. Aujourd'hui, à la prise de son, c'était Dalia, à la réalisation Liz Combe. Un grand merci à l'équipe du Book Club, Jeanne Aléo, Soriane Delacroix, Anouk Delfino, Marianne Chassor, Léa Weisgruss, Didier Pinault, Alexandra Lajbegovic et Marie Richeux. Cette émission peut se réécouter sur le site de France Culture, où vous retrouvez aussi toutes les références musicales et littéraires du jour. Et vous pouvez aussi vous abonner à son podcast via l'application Radio France. Très bon après-midi à toutes et à tous à l'écoute de France Culture.